Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani Wamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenibiru.
Halud Mouni.
Chenibiri. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.
Auditrices, auditeurs, bienvenue. Le Grand Dialogue de ce mardi traite d'un problème épineux, la gestion du foncier au Mali, une gestion sévèrement critiquée à beaucoup de niveaux et pour beaucoup de raisons. Expropriation arbitraire, conflit foncier parfois sanglant, diversité de documents d'attribution, multiplicité d'autorités concédantes avec comme corollaire les cas de chevauchement de compétences, décisions de justice contradictoires au Mali qui parlent de foncier, parlent de problèmes. Alors pourquoi tant de problèmes entachent la gestion du foncier au Mali? Ces problèmes sont-ils bien gérés? Quelle est la nature de ces problèmes? D'où proviennent-ils? Que visent les réformes annoncées? Qu'en sera-t-il quant à leur applicabilité? Les questionnements, ça ne manque donc pas des questionnements que nous allons partager avec nos invités qui sont Massa Kone de l'Union des associations et coordination d'associations pour le développement et la défense des démunis, Fasséri Traoré, cellule de Sans Voix, Maître Bourima Sagara, avocat spécialiste du foncier. On les joindra au téléphone. Le Grand Dialogue de ce mardi vous est présenté par Seydou Fomba. Lors de l'espace d'interpellation démocratique du 10 décembre dernier, les litiges fonciers ont constitué l'écrasante majorité des interpellations. La table ronde consacrée à la réforme foncière en octobre 2014 a constaté que plus de 70% des affaires de justice portent sur les conflits fonciers au Mali. Dans le communiqué du Conseil des ministres du 22 octobre 2014, on pouvait lire ceci: l'ampleur et la profondeur et quelquefois la violence des conflits fonciers jusqu'ici enregistrés dans les pays ont mis en évidence l'importance et la sensibilité des problèmes fonciers aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. Fin de citation. Des conflits fonciers en ville, des conflits fonciers en milieu rural. Qu'est-ce qui fait que le Mali se trouve confronté à tant de problèmes dans ces domaines? Nous allons poser la question d'abord à Fasséri Traoré, il est de la cellule des Sans Voix.
Ok, je vous remercie et bonsoir les auditeurs, les auditrices. Et moi, je suis Fasséri Traoré, mouvement des Sans Voix. Et quand même, le truc foncier au Mali, c'est très, très délicat. Parce que quand on voit la nature, on dit la nature des fonciers. Quand même, au Mali, on déplace les problèmes au lieu de résoudre. C'est ça le problème où on n'arrive pas à résoudre les problèmes. Il ne s'agit pas seulement de rester en premier degré de l'équation si tu veux résoudre un problème. Parce qu'un problème, ça va au-delà de tout. Parce qu'on voit au Mali dont si les gens se défendent 100% auprès des autorités, on vous voit comme un ennemi principal au lieu de comprendre que c'est un problème qui est là à résoudre. Seulement, voilà, il y a répression totale. Tu vois, en montrant que c'est les policiers ou bien les gendarmes peuvent faire face à ces problèmes-là et que jusqu'à présent, c'est pas ça. En effrayant les gens, peut-être ils vont se préparer au plan B. Et c'est pour cela, moi, j'ai dit, ils déplacent les problèmes et non les résoudre. Si tu déplaces les problèmes, toujours le problème va rester. C'est pour cela, et le problème foncier est là. Ça peut pas finir. Il faut que l'État soit, malheureusement aussi, je peux dire qu'ils sont pas là. Ils étaient invités. Le débat allait être vraiment un débat très intéressant parce que moi, j'allais trouver beaucoup de questions en posant vers eux, mais comme ils ont refusé de venir.
Écoutez, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils se sont fait excuser, certainement pour des raisons
Ça allait être un débat très intéressant et nous, devant eux, en tant que victime de la situation, mauvaise gestion de la situation par l'État malien, ça allait être vraiment un débat. Mais quand même, il faut que l'État comprenne qu'il déplace les problèmes et non de résoudre les problèmes.
Massa Kone, vous êtes de l'Union des associations et coordination d'associations pour le développement et la défense des démunis. Dites-nous, est-ce que ça vous surprend qu'il y ait tant de problèmes dans le domaine du foncier au Mali?
Bon, ça ne me surprend pas qu'il y ait tant de problèmes dans le domaine du foncier du Mali. C'est un problème de gouvernance foncière. Le Mali, le problème est parti à partir de gouvernance foncière. Nous, on l'a dénoncé. Il y a cinq niveaux de gouvernance foncière. Tant qu'il y a cinq niveaux de gouvernance foncière et qu'il n'y a pas de responsable qui peut poser l'autorité de l'État, c'est que ça, ça va créer des problèmes.
Alors, 5 niveaux de gouvernance financière, vous pouvez nous assister au moins 3.
Oui, oui, 5 niveaux de gouvernance foncière. Je vous donne d'abord, je prends d'abord les domaines. Les domaines, ils ont le pouvoir d'attribuer la terre, comme vous le voyez, création des titres, c'est un niveau de gouvernance foncière. Il y a le privé, il y a le gouverneur. Le gouverneur est aussi est un autre niveau de gouvernance foncière qui peut faire des cessions foncières. Il y a le préfet qui peut faire des cessions foncières. Le sous-préfet peut faire des cessions foncières. Le maire peut faire des cessions foncières. Vous avez les cinq points de gouvernance foncière dans un seul État. Et nous sommes sous le pression du marché. Et que chacun cherche à s'enrichir avec la terre. Et tous ces cinq niveaux de gouvernance attribuent la terre n'importe comment. Parce que la terre, le système n'est pas cadastré. Le système n'est pas cadastré. Chacun se met à donner la terre comme il veut. Et la terre, c'est une arrière enrichissement aussi des agences immobilières. Et qui font les frais? C'est le pauvre citoyen qui font les frais. Bien vrai que leur droit est reconnu par l'article 43 de la commission domaniale, du code domanial, mais ce n'est jamais appliqué. Donc la partie qui n'est pas appliquée, la partie qui est applicable, qui est le droit moderne, donc on passe par le droit moderne au détriment du soi-disant illettré. Et maintenant, on les arnaque. Et ces cinq niveaux de gouvernance française, c'est ce que moi j'ai appelé depuis longtemps un complot contre l'État. Et l'État, c'est nous, ce n'est pas le gouvernement. Donc, raison pour laquelle ça ne me surprend pas, tant que le système reste comme tel, tant qu'il n'y a pas une autre réforme foncière, dans ces réformes foncières, qu'on puisse cibler qui doit donner la terre et que les terres soient cadastrées au moment où ils sont attribués. C'est ce qui peut protéger le pauvre paysan, le pauvre démuni, le pauvre gens du quartier populaire qui a sa propre maison, qui l'a hérité de façon en droit. Alors, on peut dire en droit.
Voilà, monsieur Koné, oui. Nous aurons l'occasion de revenir sur les réformes. Oui. Alors, nous avons Maître Brema Sagara qui est en ligne. Il est avocat spécialiste du foncier. Dites-nous, maître, comment peut-on expliquer le fait qu'il y ait tant de problèmes dans le domaine du foncier au Mali?
Merci. Monsieur le journaliste, je n'ai pas pu capter votre nom là, avec toutes mes excuses.
Allez-y.
Et j'ai suivi, Maître Brema Sagara, avocat à la Cour, cabinet des juristes consultes associés. C'est avec intérêt que je tiens à participer à ce débat, quoique j'ai été saisi un peu tardivement cet après-midi-là. Et je le souhaitais être sur le plateau à vos côtés, mais mes contraintes professionnelles ont fait que je n'ai pas pu effectuer le déplacement. Je vous présente toutes mes excuses.
Vous êtes excusé, oui.
Merci beaucoup. Alors, j'ai très bien écouté les deux intervenants. Je partage parfaitement avec M. Koné. Les difficultés foncières au Mali tiennent en grande majorité à l'impunité. À l'impunité parce que, comme il l'a dit, il y a une multitude d'acteurs qui interviennent dans l'attribution des parcelles. Alors, en 2009, au cours des États généraux du foncier, j'ai eu la chance de participer et organiser les États généraux du foncier en ce qui concerne la partie, c'est-à-dire que les professionnels, on avait tenu ça à Stellenguer pendant 3 jours. Tous les acteurs concernés étaient là. Le domaine de l'État, les représentants du ministère, ainsi que les praticiens que sont les avocats, les notaires, les architectes, les urbanistes, les géomètres, tout le monde était présent. Nous avons fait remarquer que du fait que les autorités en charge de gérer ce domaine foncier se livrent à des spéculations de tout genre, mais ni plus ni moins en l'absence de sanctions administratives et pénales. Vous vous imaginez, comme M. Koné l'a dit, le service national des domaines et les services régionaux des domaines donnent des terres sous forme de titres fonciers. Il s'agit d'une cession directe ou des transformations des droits précaires en titres définitifs. Vous avez le sous-préfet qui est retranché de l'autre côté, continue à jouer son jeu. Vous avez le préfet, vous avez le gouverneur, vous avez les maires, imaginez, et vous avez de l'autre côté l'hygiène qui n'est plus dans le circuit, mais qui continue à manipuler souvent certains services qui ont encore en charge la gestion foncière. Donc, si nous voulons vraiment utile aujourd'hui.
Voilà, cela est compris, Maître Sagara. Nous revenons donc dans ce studio. Vous l'avez reconnu tous les trois, il y a trop de problèmes. Dites-nous, les problèmes qui se posent le plus souvent dans les domaines du foncier au Mali, de quelle nature sont-ils? Je pose la question à Fassery Diarra, qui est du mouvement des Sans-Voix.
Ok. Et de façon, moi, je vois les représentants du ministre quand même acteurs aujourd'hui pour défendre... les diminuer de façon stratégique, mais moi, ça me surprend aussi que le pouvoir soit vraiment aux côtés des diminuer par rapport à l'état foncier. Parce que c'est eux-mêmes l'acteur le coupable. Que quand il dit en 2009, oui, les forums, les recommandations de ces forums-là, où en sommes-nous avec ça? Ça, c'est très difficile de comprendre les jeux. Parce que moi, je situe le problème au niveau de l'État. Bien sûr, ils ont bien détaillé, comme Massa l'a dit, lui, il vient de confirmer. Bien sûr, mais tu vois, mais ce n'est pas les diables qui ont fait ça. C'est le même. L'État, c'est l'autorité. C'est l'autorité, c'est une continuité. C'est une continuité. Maintenant, si c'est une continuité, pourquoi aujourd'hui on se retrouve jusqu'à présent, si vous avez la bonne volonté, vraiment et réellement, pourquoi on se retrouve jusqu'à présent dans ces problèmes-là, et refaire, si les recommandations n'est pas bonne, pourquoi pas, on ne peut pas revoir encore vous qui êtes venus tout de suite vous défendre. Il faut faire ces forums-là pour bien détailler c'est où en sommes-nous aujourd'hui avec les recommandations de ces forums. Maintenant, la nature de ces fonciers, c'est ça, ils ont dit, c'est l'État en premier lieu. La mairie fait ses commerces de terre. Mais moi, je ne sais pas où se trouve vraiment, où est la différence entre les autorités et les riches au Mali.
Alors, nous allons rappeler à M. Traoré que le ministre, on l'a entendu aujourd'hui, annoncer quand même certaines mesures qui se rapportent à l'annulation des titres fonciers. On aura l'occasion d'en parler au cours de ce débat. Maintenant, je donne la parole à Massa Kone de l'Union des associations et coordination d'associations pour le développement et la défense des démunis.
Oui, vous avez parlé de la nature du problème. Et je vais rappeler d'abord les Maliens que le premier problème foncier connu au Mali, ça c'est maintenant l'expropriation des maisons. Ça a commencé par l'opération Sauver notre quartier. Quand on a parlé des lotissements, le premier problème est parti à partir des lotissements. Après la décentralisation, quand les maires ont eu leur pouvoir en 2002, ils sont allés d'abord à s'attaquer aux espaces vitaux et aux poumons des quartiers, qui sont les lits des marigots. Donc maintenant, là aussi, on a vu d'autres natures venir, morceler n'importe comment, sans cession, et les vendre parce qu'ils sont du parti, où le ministre est issu du parti, et tout le monde a son gâteau dans le jeu. Donc l'autre nature maintenant qu'on a vu, et qui est venue à partir des années 95 jusqu'à nos jours, ça c'est la création des titres fonciers. La création des titres fonciers est arrivée avec la prolifération des agences immobilières. Pourquoi la prolifération des agences immobilières? La prolifération des agences immobilières est une véritable mafia au Mali. Parce que l'argent n'est pas pris en Suisse. Il faut fructifier l'argent chez nous. Pour fructifier l'argent chez nous, il faut garantir le dit. Pour garantir le dit, il faut quand même, pour avoir une garantie, l'hypothèque auprès des banques, il faut créer un titre foncier. Donc le titre foncier, c'est la raison pour laquelle on a vu, avec la prolifération des agences immobilières, on a vu la création des titres de toutes sortes, dont le gouvernement en est le plus grand complice. Ça, on peut le dire. Et après la crise de 2008, on a vu maintenant la création des bois amphithéotiques. Les bois amphithéotiques, maintenant, ça, c'est dans le data center qui est dans l'office du Niger et dans d'autres lieux. Donc, on est parti des petites maisons. Tant ils ont fini les petites maisons, ils se sont sacoquinés et créé une mafia entre l'opérateur économique, les riches, les agents des domaines, des régions et tout, qui est là pour faire le business, et de l'autre côté maintenant, qui est maintenant celui qui fait le droit, qui est un juge, qui vient rentrer dans le lot, et maintenant, l'association maintenant de l'agence immobilière est prête. Et maintenant, on lance des paravents, qui sont quelques individus qui sont là dans un petit coin, et qui disent, on a des terres, on peut les vendre. Or, l'agence immobilière, le statut des agences immobilières est bien connu dans le Mali. Mais les agences immobilières, maintenant, sont ils ne doivent pas vendre la terre, ils doivent vendre des maisons.
Studio Tamani, voilà. 18h30, dans un instant, la suite de ce débat.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je rappelle que c'est du foncier que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Alors, nous avons trois invités. Massa Kone de l'Union des associations et coordination d'associations pour le développement et la défense des démunis. Fassiri Traoré, il est du mouvement des sans-voix. Et Maître Brahima Sagara, qui est avocat spécialiste dans, il est spécialisé dans le domaine du foncier. Nous l'avons toujours en ligne. Alors, dites-nous, Maître, de quelle nature sont les problèmes les plus souvent rencontrés ici dans la gestion du foncier?
Et la plupart des problèmes que nous rencontrons dans la pratique sont liés essentiellement soit au double emploi que les autorités en charge de la gestion de ces questions foncières.
Alors, expliquez-nous, c'est quoi le double emploi dans ce contexte?
Le double emploi, c'est lorsque on attribue successivement une seule et même personne à deux personnes. Une seule et même parcelle à deux personnes, sinon même à plusieurs personnes. Comme je parle de double, ça veut dire qu'il y a deux, au moins. Je prends un exemple.
Des cas comme ça, c'est fréquent?
À tous les uns.
C'est fréquent, des cas comme ça?
Extrêmement fréquent. Et je peux vous citer, passer toute la nuit à vous donner des exemples. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a un monsieur qui est venu me voir. Donc, je suis dans le secret professionnel, je suis tenu de garder le nom des parties. Il m'a montré des documents. Alors, dans un quartier comme Calabancroix-Assey, il a un titre précaire, ce que nous appelons la lettre d'attribution ou le permis d'occuper, qui date de 1996. Il a réalisé, il y a bientôt 10 ans, il a des magasins qui sont en location. Et subitement, quelqu'un sort avec un titre foncier qui date de 2011 et il est question d'une cession directe entre, c'est-à-dire que le service des domaines et l'intéressé suite à l'arrêté du gouverneur qui aurait autorisé cette cession. J'ai fait comprendre à ce client-là, à ce que je chasse, en 2011, il n'y a aucune terre neuve sur le territoire de la commune 5, encore moins à Calamancroix-Assey, pour permettre au gouverneur de prendre un arrêté de cession d'une telle parcelle, encore moins de procéder à la cession par le directeur national des domaines. Et par ailleurs, nous avons également relevé qu'il y ait suffisamment de faux titres fonciers ou de fausses immatriculations. J'ai également vu des cas dans lesquels une seule et même parcelle ont fait l'objet d'immatriculations successives. J'ai interpellé à l'époque le conservateur de domaine en charge du dossier. Je lui ai dit, monsieur, immatriculation, c'est comme si vous avez un enfant que vous baptisez aujourd'hui. Je ne comprends pas comment la seule et même parcelle puisse faire l'objet d'immatriculation successive. Il m'a répondu pour dire non. Il sait certainement que les services techniques se sont trompés. Ça ne doit pas être là sur les mêmes parcelles. J'ai fait requérir le service d'un expert immobilier. Nous nous sommes rendus sur le terrain. L'expertise a été faite. Nous avons trouvé qu'il s'agit là d'une immatriculation sur une autre immatriculation. En clair, la seconde immatriculation a été faite dans le bureau. Aucun agent ne s'est déplacé sur le terrain pour effectuer des travaux techniques.
Alors, Maître Sagara, en tout cas, le fait que vous venez de relater prouve à suffisance que la situation est assez grave.
Une question. La situation est exceptionnellement grave si on n'y prend garde.
Alors, à présent, une question. La situation, elle est grave, mais dites-nous, elle a toujours été comme ça ou alors à quand date la dégradation de la situation par rapport à la gestion du foncier, et vous, Monsieur Traoré, Fassiri Traoré?
Quand même, nous, quand on a lutté, on a commencé à lutter réellement ces combats en 2006 au Mali. Qu'on a vu vraiment la mairie est devenue un problème pour la population. de façon, quand même, j'ai salué encore le ministre, parce que moi, je suis en train de rêver ou pas, qu'une autorité, vraiment, il est acteur aujourd'hui des défenseurs. Je le félicite que ça soit vraiment continuel auprès de ces victimes de l'état foncier au Mali. Et c'est ça, en 2006, nous avons commencé, on a vu, et de façon où ce n'est plus, c'est devenu un business au niveau de la mairie, où il y a eu des quartiers démolis, hein, et de Bamako. C'est partant de ça que nous avons compris. Il faut, on était pas, notre association, ce n'est pas limité seulement à l'État français ou les déguerpis, mais notre association lutte pour défendre les démunis, les plus démunis au Mali. C'est ça notre combat. Maintenant, on a vu en 2006, vraiment, le business de l'État français est devenu très grave parce qu'on a vu des gens qui ont été chassés de leur maison, qui sont là-bas depuis Bamako, n'existent pas en tant que tel. Quand on prend Konyumani, Bankoni, de façon où on chasse les gens qui sont là-bas depuis, on ne sait pas où, d'où vient la mairie. Maintenant, et que en ce moment que nous avons compris, vraiment, il faut faire face à ces problèmes, de dénoncer non seulement la mairie, mais les autorités à haut degré. C'est comme ça que nous avons s'intéressé à ces combats pour que vraiment la situation soit réelle, de façon que l'État comprend qu'il sont en train de piétiner ses propres populations, qui soient auprès au lait. Si on dit Bamako, c'est la personne, c'est la famille. Maintenant, il faut respecter. C'est très important. La mairie qui est là, qui ne respecte pas, et que la population vote pour eux, pour qu'ils soient vraiment les vrais acteurs de leur développement, mais ça devient un vrai détruiteur de leur développement, et que c'est ça qu'on nous on restait à dénoncer à 100% pour que la population comprenne. Et je suis très content aujourd'hui. À l'époque, ce n'était pas comme ça que l'autorité nous reconnaît. Et qu'aujourd'hui, moi, je vois un représentant du ministère qui reconnaissent réellement que le problème existe et qu'ils ont pris des mesures. Ils vont, peut-être le débat va nous permettre de comprendre vraiment le sens même où va vraiment leur degré d'engagement pour sauver ses propres populations à ces problèmes qui n'est pas vraiment diabolique, qui n'est qu'une volonté politique pour que la vie soit meilleure pour toute la population malienne, de façon à avoir l'accès à la terre. Surtout les paysans qui sont à Sanamandougou, à l'office, qui ont dans les problèmes, que moi je ne comprends plus, je ne comprends pas, que vraiment à l'office jusqu'à présent, on est en train de chercher les gens parce qu'ils n'ont pas payé d'eau, peut-être à 1000 francs qui les manquent, ou 2000 francs, ou 5000 francs, 10000 francs les manquent de payer les redevances eau, on les chasse sur terre. Je ne comprends pas jusqu'à présent, et qu'on est en train de subventionner les commerçants à aller acheter les riz. Pourquoi pas on ne subventionne pas les paysans en leur donnant l'accès à la terre pour mieux cultiver et que les riz soient achetés au Mali à 5 francs CFA. C'est très clair. Maintenant, c'est en donnant la terre, accès à imagine encore, les paysans, il y a des paysans de Dimas dans l'office. Les paysans de Dimas dans l'office, ils louent la terre. Ils louent la terre aux paysans. Il y a des autorités qui sont là-bas, ils ne vont pas. Ça, c'est les paysans. Nous, on nomme ça les paysans de Dimanche, dans l'office.
Ce n'est pas des vrais paysans, vous voulez dire?
Ce n'est pas des vrais paysans. Ils ne sont même pas des paysans qui sont dans les bureaux climatisés. Ils prennent la terre, ils disent qu'ils vont exploiter. Comment ils vont exploiter? En prenant la terre, ils louent ça aux paysans. Et étant donné, les paysans sont auprès de l'office pour en avoir. On les refuse de les donner. Maintenant, que moi, je ne comprends pas si aujourd'hui, si vraiment le ministère il est avec nous aujourd'hui, vraiment il faut reformuler, il faut faire la réforme de l'office du Niger. Il faut donner la terre aux gens de Sanamandougou et Sao. Et que le ministre n'aille à Sanamandougou et Sao voir comment un coopérateur économique en train de piétiner la population, en train d'empêcher la population à cultiver leur terre. Et qu'on dit c'est la pomme de terre. Nous, on ne connaît pas la pomme de terre en tant que telle. On ne connaît pas la pomme de terre en tant que telle qu'on soutient Mourbo GDSM qui est en train de piétiner milliers de populations à Sanamandougou.
Massa connaît.
Oui, ce problème, quand date ces problèmes fonciers? Les problèmes fonciers, quand je reviens à mon organisation qui est l'Union, l'IACDD, l'Union pour le développement de la défense des droits des démunis. qu'aujourd'hui nous sommes au nombre de 213 associations, organisations des villages, tous victimes de ces problèmes fonciers, de ces malversations foncières. Je suis victime de ça. Mais quand on les classe et quand on fait l'analyse du début à aujourd'hui, on voit que tout est parti d'abord à partir de la décentralisation et à l'événement aussi de l'ACI. N'oubliez pas, l'événement de l'ACI a montré aux Maliens que la terre a une valeur. Donc l'événement de l'ACI, le problème de la décentralisation, qui les maires ont su qu'ils n'ont pas d'autres ressources pour s'enrichir ou financer leur parti, maintenant se sont attaqués à la terre, au problème d'urbanisation et au problème à rentrer en aphérisme avec les agences immobilières. Comme camarade Fasseri l'a dit, aujourd'hui c'est très très étonnant, mais c'est notre politique. C'est notre politique. C'est une politique de développement imposée par la Banque mondiale et l'FMI sur nos gouvernements. Et cette politique est appliquée à la lettre par nos autorités. Quand on regarde ces politiques appliquées à la lettre, ces politiques ne défendent que la propriété privée. Or nous sommes issus d'une gestion collective des terres qui sont nos droits coutumiers. Et quand on regarde ces droits coutumiers où toi tu peux cultiver ta terre, l'éleveur il vient, il pâture là-dessus, les femmes ils viennent, ils ramassent des produits, des fruits, des cueillettes. Mais tu sais, on vivait en harmonie. Mais quand est venu ce système de modernisation et de développement, donc nos États ont été suscités à mettre la terre au marché international. Donc, et tout le monde a vu cette valeur. Et c'est dû à cette valeur maintenant que notre savoir-faire, notre agriculture familiale, tel qu'il a pris l'exemple de Sanamandougou. C'est un exemple. Il y a Sanamandougou, il y a Sansandeng, il y a, quand on regarde Sang, il y a dans toutes ces zones, quand on regarde la zone de Kai, il y a dans toutes ces zones où, dans notre politique de développement, on a su que c'est le richichisme qui est l'opérateur économique ou le multinational qui peut développer notre pays, sans pourtant appuyer l'agriculture familiale qui soutient à 40% notre besoin alimentaire. Maintenant, au lieu de les soutenir, les aider à fructifier leurs revenus, de faire des paysans investisseurs, mais que ce soit des paysans sur leur terre qu'ils investissent pour nourrir le Mali. Non, on suit un système capitaliste imposé par la Banque mondiale et l'FMI où on laisse une porte ouverte aux multinationales et aux agences immobilières, opérateurs économiques qui ont les milliards et qui viennent investir sur nos terres, mais qui nourrit pas le Mali. Il a dit, quand on parle de la pomme de terre, quand on parle du bleu, mais la pomme de terre au début au Mali, moi je viens de Ségasso, j'ai toujours cultivé de la pomme de terre. Je connais le prix d'un kilo de pomme de terre. Et aujourd'hui, quand on a privilégié des gens comme Modibo Keïta, qu'on les subventionne de tout.
Bon, on va éviter quand même de citer nommément.
Oui. Allez-y. Donc, quand on supporte ces gens, tel que récemment, vous avez entendu quelques accords ont été signés par le ministre du Développement. Ces accords, c'est sur des terres où il y a une trentaine de villages qui vivaient depuis des siècles. Est-ce qu'il faut privilégier ces villages qui font de l'agriculture familiale pour développer, les aider à développer pour lutter contre la pauvreté ou les expulser complètement, porter atteinte à leurs droits et installer maintenant un multinational, un opérateur qui vient sucer notre terre, y mettre des produits chimiques qui appauvrissent nos terres et maintenant tous ceux qui cultivent, c'est de l'agriculture intensive. Et biodiversifié et qui est dédié maintenant au commerce international, qui n'est pas fait pour l'alimentation de chez nous.
D'accord.
Donc, raison pour laquelle j'ai dit, tout est parti à partir des événements de 91, quand la démocratie est venue et qui a suivi à la lettre tout ce qui a été imposé par l'international, qui est la décentralisation, et les maires aussi se sont attaqués à la terre. Ah, et on a fait l'agence immobilière, l'ACI aussi, pour prouver aux Maliens aussi que vous pouvez vous s'enrichir des terres des pauvres.
Nous allons maintenant joindre Maître Brima Sagara, qui est avocat spécialiste dans le foncier. Dites-nous, la situation aujourd'hui relative à la gestion du foncier, qui certains qualifient même de chaotique, est-ce qu'elle a toujours été ainsi, Maître Sagara?
Si on remonte un peu dans le passé, c'est vu que essentiellement c'est dans les années 1992, les événements de mars 91, et lorsque c'est-à-dire que l'initiative de mettre en place l'agence de cession immobilière et avec l'urbanisation galopante, que les problèmes fonciers se sont vraiment multipliés. Sinon, avant, c'est-à-dire que la chute du régime, ce problème existait, mais c'est-à-dire qu'à des degrés moindres par rapport, c'est-à-dire qu'après l'événement du 26 mars. Alors, depuis 1995, le problème ne fait que s'accentuer. Aussi bien, c'est-à-dire que dans le monde urbain que dans le monde rural. Je vous dis, au moment où je vous parle, ce matin encore, j'ai reçu 5 vieux qui viennent de la région de Kaï, qui ont été complètement spoliés de leur espace vital au profit d'une seule famille. La suite des différentes décisions de justice, et moi-même, j'ai du mal à comprendre. J'ai saisi en son temps le ministre de la Justice d'une demande d'intervention pour éviter éventuellement les affrontements.
Alors, Maître Sagara, les décisions de justice, on va en parler juste sous le temps d'observer une courte pause.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Ouais, Maître Brema Sagara, vous êtes toujours en ligne. Vous avez déjà parlé du problème, vous l'avez évoqué. Alors maintenant, les décisions de justice, c'est le sujet que nous allons aborder à présent. Êtes-vous satisfait de la manière dont la justice tranche les litiges fonciers au Mali?
Pas du tout, pas du tout. Professionnel que je suis, j'ai toujours attiré l'attention des magistrats qui ont en charge de ces dossiers que aucun juge en République du Mali ne peut trancher sainement des questions foncières sans au préalable effectuer un déplacement sur le terrain. Il s'agit d'une question intimement liée à l'histoire.
Excusez, maître, vous voulez dire que les problèmes sont tranchés souvent sans même que les juges ne se rendent sur le terrain?
90% de ces décisions sont obtenues sans qu'on puisse même écouter et témoigner des villages environnants qui ont souvent, c'est-à-dire que vu ces villages-là naître, ou qui ont même, c'est-à-dire par hostabilité.
Alors, quelques problèmes, certains.
Par hospitalité, qui ont accordé, c'est-à-dire que le site-là, à ces différents villages-là, qui sont à mesure d'éclairer davantage ce tribunal sur la réalité socio-économique et culturelle de ces milieux-là. Comment est-ce que les choses se passent ainsi? À l'époque, il y avait un magistrat qui était formel. À son niveau, aucun litige ne pouvait être tranché sans qu'il y ait au préalable une expertise et un transport sur les lieux pour délimiter la zone litigieuse après avoir également entendu les personnes ressources des villages environnants. Et dommage que les pratiques ne s'étendent pas sur toutes les juridictions, ce qui fait que nous avons souvent des décisions qui nous surprennent tous les jours et jusqu'au niveau de la Cour suprême.
Facilie Traoré, du mouvement de Sans Voix, vous vous intéressez un peu aux décisions de justice par rapport aux litiges fonciers?
Non, pas tellement. Moi, et quand même, Sagara nous fait plaisir aujourd'hui à notre émission. Et quand même, les juges, moi, je ne les trouve pas en tant qu'acteurs au service de la nation. Parce qu'il faut dépolitiser les choses. C'est ça qui va être vraiment bon pour le peuple malien. Tant qu'on ne dépolitise pas les choses, ça va être très difficile à résoudre. Le juge qui est là-bas, il est là à faire l'affaire des autorités et non là au service de la population. Moi, je pense que cette justice-là doit être une balance pour les pauvres réels, avec contre les richards ou bien les autorités. Mais très généralement, c'est les riches qui gagnent à tout moment. Hein, c'est les autorités qui gagnent à tout moment. C'est les pauvres qui ont tort. Jusqu'à ce que même la population n'ait plus confiance à sa propre justice. De façon, parce qu'on dit c'est la même chose. Même si on n'a même pas envie d'aller à la justice pour trouver une solution. Parce que déjà, tu juges déjà l'affaire bien avant que tu n'as même pas allé. Parce que tu sais que tu es perdu davantage. De façon, tu n'as pas d'argent pour aller au-delà ou bien tu n'as pas une famille au haut sommet pour que tu sois vraiment soutenu. C'est ça que moi, j'ai dit vraiment, il faut revoir même la démocratie malienne en tant que telle. Si on doit reformuler ou bien réellement, quand même, il faut dépolitiser. C'est ça qui va résoudre vraiment les problèmes.
Massa Kone.
Oui, la justice, moi j'ai dit aujourd'hui, au sein de l'Union, on a 113 dossiers au niveau de la justice, 113 dossiers au niveau de la justice, et que c'est les camarades qui ont cotisé pour que je puisse faire des études de droit encore pour défendre ces causes. Mais je dirais que, vous savez, pour la justice, le 16 mars, on nous a mis en prison. Le 16 mars passé, parce qu'on est allé défendre, on est allé écouter notre jugement passé. Le tribunal est ouvert, et on est allé pour le dossier de Kalabangbougou, on est allé à la justice pour pouvoir écouter notre jugement
Et donc, puisqu'on a mobilisé une masse pour venir participer au jugement et que ça n'a pas plu aux justices maliennes, l'intention a été placée au-dessus de la profession. C'est ce qui se passe au Mali. Mon propre intention, mon propre intérêt a été toujours placé au-dessus de la profession dont on a prêté serment. Donc la justice nous a prouvé que vraiment, ils ne sont pas là pour l'affaire des peuples maliens. Ils sont là pour l'affaire des sécurités. Je vous ai dit, la mafia, ils font partie. Il y a quelques juges qui font partie de la mafia. Donc, qu'est-ce qui se passe à la justice? Quand on part à la justice, tout le monde sait que les droits coutumiers, on ne peut pas les démontrer. Parce que je suis de la boîte maintenant. On te dit, tu viens, 80% de nos problèmes d'abord part des problèmes des droits coutumiers. C'est les détenteurs de droits coutumiers qui sont expropriés de leur terre au profit maintenant d'un droit moderne, de quelqu'un, d'un richissime qui a les moyens. Quand tu pars à la justice, la première des choses, d'abord, on te demande, amène tes papiers. Et comment toi, tu peux faire constater ton droit coutumier? Et toute une chaîne que tu dois remonter pour faire constater ton droit coutumier. Et comme l'a dit maître, un juge, tu dois aller sur le terrain quand pour trancher quand même un problème foncier. Non, le juge ne part pas sur le terrain. Il tranche à partir de son bureau. Il demande à l'autre d'amener ses documents. D'autant plus que même si l'autre a fait des siècles et des siècles sur cette terre, il s'en fout. Et il les tranche. C'est ce qui s'est passé avec les gens de Kalabambou. Les gens sont là depuis la nuit des temps. Et maintenant, on vient, on dit qu'on a créé un titre. Le titre a été créé au profit des gens des malades blanchis de la lèpre. Non, c'est des syndicats qui prennent parce qu'ils sont intellectuels. Ils peuvent grouiller, ils ont les moyens, ils peuvent rentrer à la justice, ils peuvent rentrer et sortir parce qu'ils parlent français. Aujourd'hui, l'autre ne peut pas parler français. Donc, et ils parlent, ils traitent leurs affaires. Le peuple ne peut que venir avec sa voix et son honnêteté pour venir prouver au juge, on est en masse, voici nous on est victime, on est en masse, on est venu vers vous. Mais ce qui crée un choc, pourquoi ça crée un choc? Parce que le peuple s'est mobilisé pour la justice. Or le peuple doit se mobiliser pour la justice, mais raison pour laquelle ça a été un problème, nous on a été mis en prison pour outrage à magistrat, parce qu'on est allé en masse, donc la justice ne veut pas ça, la justice veut qu'on les laisse qui tranchent. Et un peuple qui n'a pas confiance à sa justice, parce qu'aujourd'hui il y a une fosse qui sépare le peuple et la justice. Quelle est cette fosse? Parce que le pauvre n'a jamais eu raison dans la justice. Jusqu'au point où on a dit à notre langue bamara que Fantan Diotekel est là. Donc Fantan Diotekel, normal, Fama, un riche ou une autorité ne doit bannir ça. Ça veut dire que vous n'êtes pas juste. Mais on le dit dans notre... Et les chanteurs le disent, tout le monde applaudit. C'est ce qui fait que le pauvre aujourd'hui, et surtout sur le domaine foncier, et surtout sur le droit coutumier, n'est pas considéré par la justice. Parce que tu n'as pas les moyens, tu n'es pas prêt. Même si tu prends un avocat, l'autre il s'en fout, il va aller payer son juge. Et paye son avocat. Et qui tranche.
Maître Burima Sagara est toujours en ligne. Alors, maître, quand on évoque les fonciers au Mali, certains vont jusqu'à parler d'une politique d'exclusion des pauvres. Ce n'est pas un paradoxe, non? Dans un pays qui consacre par an un mois entier à la solidarité et à la lutte contre l'exclusion?
Oui, on comprend difficilement et ce paradoxe-là parce que... Vous savez, il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte pour savoir que parler de tous ces paramètres-là. C'est vrai, parce qu'aujourd'hui, que je comprends le cri de tous ces pauvres-là qui souffrent dans leur chair et dans leur patrimoine. C'est ce que j'ai toujours dit aux magistrats. C'est que le rôle d'une justice saine est de protéger, c'est-à-dire que le droit le plus faible par rapport au plus fort. Alors, lorsqu'on regarde aujourd'hui tout autour de nous-mêmes, dans la plupart des cas, nous nous rendons compte, effectivement, en ce qui concerne la gestion foncière. Allez, il y a des gens tapis dans l'ombre qui parviennent à se faire délivrer des documents administratifs de tout genre et qui parviennent silencieusement, tout calmement, avec pour spolier des personnes qui ont toujours occupé ces parcelles-là ou qui détiennent, c'est-à-dire que des droits coutumiers depuis, c'est-à-dire que plusieurs générations. Donc c'est dommage que ça se passe comme ça. Et il faut que les autorités prennent les choses en main pour qu'on puisse vraiment sortir de là, sinon c'est un chaos total.
Alors, nous allons à présent parler un peu des réformes. Il est de plus en plus question de réforme foncière. On estime son coût à plus de 30 milliards. Je suppose que vous vous intéressez à ces dossiers. Que vise concrètement ce projet de réforme? Nous allons poser la question à M. Traoré Fasséri du mouvement des Sans-Voix.
Oui, mais je pense que l'État est bien situé pour répondre à cette réforme. Parce que moi, je pense que il faut reformuler les choses. Pour moi, je vais aller jusqu'à la démocratie malienne. Vraiment, il nous a dicté de la démocratie et non au service de la nation. Et cette démocratie tend vers... c'est pas seulement la justice, c'est pas seulement... même les conditions de vie meilleures au Mali. Tu prends, à plus forte raison, on vient... L'État qui ne se soucie pas à sa population ne peut pas voir vraiment que sa population doit avoir à manger, logement et puis la santé. Parce que c'est ça qui rentre dans ça. Si on avait une autorité responsable qui a une volonté politique de façon, on devrait analyser bien avant l'instauration de la démocratie qu'est-ce qui est bon pour ma population et instaurer ça. En ce moment, la justice allait être une porte d'entrée à toutes les populations. En même temps, la réforme allait être une solution parce qu'on a fait en 92 de façon où on a fait une constitution, on a fait notre constitution. Peut-être partant de là-bas, devrait donner la chance au peuple malien d'avoir l'accès au logement et à la terre.
Massa connaît ces réformes qui sont annoncées, ça vous dit quelque chose?
Oui, ces réformes, on est allé de l'état général du foncier aux réformes foncières, aux réformes foncières aussi. Au profit de qui? C'est là où va la question. Les réformes forcées au profit du système de cadastrage. Bon, moi je vais dire, d'abord le problème, d'abord, il y a une nouvelle loi foncière rurale qui est en cours. La nouvelle loi foncière agricole, il faut les faire passer d'abord. Parce que cette loi est une chance, d'abord, pour les 80% des Maliens qui sont détenteurs des droits coutumiers, d'abord, de pouvoir matérialiser leurs droits coutumiers. Donc, à partir de ça, maintenant, on revient aux réformes foncières obligatoires. Aujourd'hui, on n'a pas le choix, on part en réforme foncière. Parce que c'est bloqué, le système est bloqué. Et maintenant, c'est une bombe qui est là. Comment désamorcer la bombe? Le gouvernement est là avec sa politique pour désamorcer une bombe. Donc, on parle en réforme foncière. Et cette réforme foncière, bon, si ça commence bien, oui, avec un ministre Bachelier qui commence quand même à prouver qu'on peut faire quelque chose avec ces réformes foncières, oui, mais c'est le gouvernement. À combien de temps ils seront là? Ceux qui sont en train de parler de ces réformes foncières. Et au profit de qui? Tant qu'il y a une réforme foncière qui ne prend pas en compte les 80% de ces Maliens qui sont détenteurs des droits coutumiers pour protéger leurs droits. Donc moi, je dirais que ces réformes foncières sera toujours fait et sera toujours accaparé au profit de ces mêmes riches qui ont accaparé notre démocratie, qui profitent de toutes les révolutions à leur service. Donc si on ne fait pas ça, les réformes foncières sera à leur avantage.
Alors, Maître Brema Sagara est en ligne. Dites-nous, Maître, les réformes annoncées, ça vous donne de l'espoir?
Il y a eu plusieurs réformes.
En deux minutes, plusieurs... oui. Allez-y en deux minutes juste.
Je dis, il y a eu plusieurs réformes, de réforme en réforme. Est-ce que aujourd'hui le problème, le vrai problème réside dans la réforme, ou c'est-à-dire c'est un problème de gouvernance politique? Toute la question pour moi se pose en ces termes. Et nous sommes sortis des États généraux du foncier en 2009. Il y a eu des assises locales, des assises nationales. Nous avons des recommandations ici qui sont dans nos tiroirs. Aussitôt après les États généraux du foncier, nous avons été surpris de voir un appel d'offres pour la relecture du code domanial et foncier à travers un cabinet français. En son temps, j'ai attiré l'attention de l'organisme en charge de cet appel d'offres, c'était le PAC, le projet d'appui à la croissance. Pour les comprendre, le meilleur texte qu'on peut sortir, c'est de toucher aussi possible la population dans les confins des brousses pour qu'ils puissent donner quelles sont les difficultés réelles auxquelles ils sont confrontés dans la gestion foncière. Lorsque c'est un cabinet français, il va, c'est-à-dire qu'il ignore totalement de toute la réalité de chez nous. Il va faire sortir des textes. Je ne pense pas qu'on puisse sortir de là.
Alors, Maître Brema Sagara, je rappelle que vous êtes avocat spécialisé dans le foncier. Nous vous remercions. Nous sommes sûrs que nous aurons l'occasion de vous avoir pour une nouvelle fois évoquer ces problèmes assez importants. Alors, l'heure qui nous était impartie est déjà terminée. C'est donc la fin du grand dialogue de ce mardi 21 avril 2015. Un débat qui vous a été présenté par Seydou Fomba à la mise en onde. Il y a donc Salim Diouara Et de l'autre côté, à la régie vidéo, Petting Diarra, je rappelle que nos invités étaient au nombre de trois. Massa Kone, l'Union des associations et coordination d'associations pour le développement et la défense des démunis. Facili Traoré, du mouvement des sans-voix. Et Maître Brima Sagara, avocat spécialisé dans le foncier. Cette émission a été réalisée par Ousmane Djadje et Touré. On se retrouve demain pour un autre sujet.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.